Bonjour et bienvenue dans ce podcast Les lois de l'attraction. Je suis François-Xavier, alias FX, et je baigne dans l'univers du recrutement depuis plus de 10 ans, et dans le grand bain, celui de l'hôtellerie-restauration. Depuis mes débuts en 2006, beaucoup de choses ont changé. En quête de sens, candidats et collaborateurs attendent des entreprises qu'elles les fassent progresser, eux et la société. Savoir placer l'humain au cœur de la stratégie d'entreprise est devenu un critère de réussite. J'ai décidé de créer ce podcast pour aller à la rencontre de dirigeants, de DRH, de directeurs recrutement et de voir quelles sont leurs stratégies qui leur permettent d'attirer, de fidéliser et d'inspirer les collaborateurs. C'est parti pour ce podcast autour des lois de l'attraction.
En fait, Zenica, moi, je pourrais en parler pendant des heures. C'est donc une ESN que j'ai rejointe en octobre 2018. En tant que responsable du recrutement. Moi, je suis ce qu'on appelle un pur produit recruteur ESN. Toute ma carrière de recrutement, je l'ai faite dans un contexte ESN. C'est vraiment un secteur qui me parle et que j'apprécie, qui n'est pas apprécié par tous les techs ni par tous les recruteurs, mais moi, je m'éclate dans ce contexte-là. Et Zenica fait partie dans l'écosystème des ESN d'une ESN que je suivais depuis quand même quelques temps parce qu'ils ont un modèle qui essaye d'être différent de celui qu'on connaît de manière traditionnelle. Alors, en termes de taille, on a passé la barre des 500 collaborateurs. Okay. On est implanté en France, dans plusieurs villes, donc bien sûr Paris, on est à Lille, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Rennes, Nantes et on a ouvert Brest l'an dernier et ça démarre bien. Et à l'international, on est présent également à Montréal et Singapour. Voilà, donc ça c'est un petit peu la photographie géographique de ouais. Zenica. Et en termes d'activité, c'est pas forcément là qu'on va être différenciant, puisque ce qu'on propose aux entreprises avec lesquelles on travaille, c'est effectivement l'expertise de nos consultants sur des projets IT. Je dirais que ce qui est différenciant, c'est la manière qu'on a de le faire et justement le contrat et le modèle qu'on peut avoir avec nos consultants. Donc là, on rentre plus un petit peu dans la culture de l'entreprise. Pour la petite histoire, Zenica a été fondée en 2006 par Karl Azouri, qui est encore aux commandes de l'entreprise et qui lui-même est à la base développeur. Et en fait, il était arrivé à un moment de sa carrière où avec des associés, il trouvait plus son compte dans les modèles que proposaient les ESN. Mmh. Et leur pitch, ça a été, on va créer la boîte dans laquelle nous, en tant que consultants, on aurait aimé bosser. Et ça s'appuyait sur, ça s'appuyait sur des convictions sur une organisation managériale. Mmh. Donc, on va trouver chez Zenica une organisation managériale assez flat. En fait, tu vas pas retrouver du tout les X strates hiérarchiques qu'on trouve dans beaucoup de structures. Et même avec une taille de 500 personnes, on arrive à faire perdurer cela. C'est-à-dire qu'on va raisonner avec des BU de taille humaine qui font qu'un manager peut suivre un nombre humain de consultants.
Mais c'est quoi ce nombre?
En fait, ce que Karl communique souvent, c'est de dire, une tribu, si on peut appeler ça comme ça, c'est 40 personnes. Parce que un manager peut humainement bien connaître 40 consultants, et il peut pas connaître 200 consultants, en fait. Mmh. Donc, dès lors que le manager chez Zenica est impliqué sur l'embauche, sur la progression de carrière et l'accompagnement que tu dois faire ton consultant tout au long de son cheminement chez Zenica, tu peux pas demander à tes managers de le faire auprès de 200 personnes. Par contre, 40 personnes, c'est faisable.
C'est une personne, un manager qui a 40 personnes en direct.
Maximum. En fait, dès lors, en fait, l'idée, c'est dès lors qu'une tribu atteint ce stade-là, on va en créer une autre, en fait.
OK.
Et après,
qu'est-ce qu'il…
Il illustre souvent en disant, on n'est pas un paquebot, on est plusieurs petits voiliers, tu vois.
Mmh. OK. Une flotte. Et qu'est-ce qui fait la tribu? C'est quoi le lien entre ces 40 personnes?
Ça va être l'activité. Donc, l'activité, là, on retrouve le cœur d'activité de Zenica, ouais. Autour d'expertise. Alors, les deux grandes expertises sur lesquelles se sont fondées Zenica, c'est tout ce qui va tourner autour de la tech open source, en fait, puisque c'était l'expertise qu'avait Karl et les fondateurs. Et puis, une expertise méthodologique autour de tout ce qui concerne l'agilité.
Okay.
Au fur et à mesure des années, se sont effectivement greffées d'autres spécialités, déclinées sous forme d'environnement technique. Aujourd'hui, on est sur de la data, on est allé sur les pratiques DevOps. On va également, côté méthodologie de travail, beaucoup aller chercher des profils qui ont cette sensibilité craft dont on parle beaucoup dans la tech. Mm-hmm. La sécurité, c'est aussi un des enjeux qu'on souhaite développer chez Zenica. Voilà, donc l'idée, c'est effectivement effectivement de continuer à diversifier notre activité tout en maintenant le niveau d'expertise et d'exigence que Zenica a eu depuis le départ et bah, qui est à la fois reconnu par les clients et par les candidats. En fait. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Voilà,
moi, ce que tu disais sur ton élément différenciant, c'est que c'était pas tant voilà, les expertises, c'est vrai qu'ils sont relativement classiques au niveau digital, mais plutôt le rapport que vous avez avec les candidats, enfin, avec les collaborateurs, exactement. Pardon, et les candidats aussi sûrement. Et donc, il y a le côté proximité, un manager, pas plus de 40 collaborateurs. C'est quoi d'autres les piliers différenciants chez vous de ça de...
Alors, on a un modèle économique. Tu sais, le modèle économique de l'ESN, c'est effectivement, bah, tu places tes consultants en mission. Mmh. Et c'est ça ta marge de manœuvre. Donc, plus tu places tes consultants, plus ils facturent, on va dire, hein, très clairement, plus tu es rentable. Et en fait, nous, on a construit, enfin, Zenica a construit un modèle budgétaire qui fait que on doit être rentable tout en octroyant du temps disponible pour nos consultants pour qu'ils puissent faire de la formation, faire de la veille technique et avoir d'autres casquettes que celles de consultants. Donc, par exemple, tu peux être consultant en mission chez un grand compte. Donc là, tu pars en mission. Et puis, tu peux aussi être formateur chez Zenica puisqu'on est organisme de formation. Donc, ça veut dire que tu peux interrompre, mettre en parenthèse ta mission pour… aller donner 3 jours de formation à d'autres techs, d'autres sociétés, et puis ensuite retourner dans ta mission. Voilà. Okay. Tu peux aussi, on libère des jours, c'est marrant, on les appelle les jazz chez Zenica, les journées d'activité à Zenica, qui sont des jours que les consultants peuvent avoir pour faire de la veille pure. Et de la veille pure, ça peut être, je vais assister à une journée d'un grand événement tech, qui peut être le DevFest à Nantes. Je veux être speaker dans un événement tech, et du coup, on libère notre consultant d'une journée pour qu'il puisse aller être conférencier dans un événement tech. Voilà.
Et ça, il y a un ratio de jours, c'est défini ou c'est…
Oui. En fait, grosso modo, ce qu'on essaye de faire, c'est que on doit pouvoir être rentable en accordant à peu près 10 à 15% du temps de chaque consultant, voire 20% dans le meilleur des cas, pour qu'ils puissent faire autre chose que leur mission, en fait.
Ok. Et ils veulent le faire, ça ? Il y en a qui veulent, qui ne veulent pas, j'imagine.
Alors, il y en a qui veulent. La plupart, quand même. Ça fait. Là, on va revenir aux aspects de recrutement. Ça fait quand même aussi partie de nos critères de recrutement. C'est qu'effectivement, comme on veut faire perdurer le modèle, on va aller rechercher des consultants qui ont à la fois cette passion pour leur métier principal, qui est d'être consultant en technologie, mais également de contribuer en étant speaker sur un domaine d'expertise en dehors de Zenica et de faire rayonner la marque au travers de ce rôle, de pouvoir être formateur. Voilà, c'était d'être. Je pense que le consultant chez Zenica, c'est pas simplement, on cherche pas simplement quelqu'un qui va aller réaliser une mission, mais vraiment quelqu'un qui va aussi contribuer sur d'autres axes pour Zenica. Donc ça fait aussi partie des critères.
Profils, dès lors que,
ouais, tout à fait. On a besoin de personnes qui ont envie de s'exprimer. Alors ça peut être sous diverses formes. Là, je te parle des conférenciers, mais ça peut être aussi l'écriture d'articles de blog. On a beaucoup de consultants qui écrivent. On a un blog chez Zenica. C'est aussi une mine d'or pour le recrutement parce que très clairement, quand on approche des candidats dans la tech et qu'on peut pousser un article écrit par un de nos consultants sur un sujet très pointu, ça a un impact immédiat dans les retours qu'on peut avoir des candidats, en fait.
Et ça a été, parce que du coup, c'est ça ce que tu dis, ça a été quelque chose qui a été développé pour travailler l'attractivité de Zenica en tant que recruteur, ou finalement ça s'est fait naturellement, qu'il y ait des collaborateurs qui ont voulu s'exprimer et puis…
Non, ça s'est fait parce que c'est l'ADN de Zenica qui a existé dès la création. Et ça revient à ce que je te disais, c'est que je pense que Carl, quand il était développeur, il était aussi speaker, il était formateur. Et je pense que, si tu veux, c'est le credo de l'entreprise. C'est pas du tout… C'est vraiment, ça a existé dès les débuts de Zenica. Et c'est devenu un levier d'attraction, si tu veux. Mais justement, c'est les meilleurs leviers d'attraction. C'est ceux qui naissent spontanément et pas ceux que tu crées pour devenir attractif. En fait.
Oui, après, il y en a, parfois, c'est une démarche un peu vertueuse de se dire, tiens, comment on peut travailler notre attractivité, puis en fait, tu rends la boîte plus sympa
tout à fait.
En voulant attirer les gens. Mais là, c'est naturel. Et d'ailleurs, j'ai vu que vous étiez numéro 1 à Great Place to Work. Alors, sur les 2018, entreprises de moins de 500, donc ça a pas duré.
Ouais. Bah, en fait, effectivement, en 2018, ils ont gravi la première marche du podium après l'avoir fait hein, et être monté progressivement chaque année.
Ouais.
Et on s'est dit qu'on ne le referait pas là cette année. On va attendre effectivement pour le retenter quand on sera un peu plus gros que 500 pour effectivement okay. Asseoir cela. Mais effectivement, ça se traduit par un cadre de vie. Par exemple, si tu veux, dans le contexte ESN, Zenica a mis en place le télétravail très tôt. Par rapport à d'autres ESN en France, c'est non seulement quelque chose qui est pratiqué de manière enfin, quasiment 3 ans après le début de la création de Zenica, donc ça a été très tôt et un
peu. Le télétravail, du coup, ils sont en mission ?
Tout à fait, en fait. Okay. Alors, après, hein, on va être très, très transparent, évidemment, qu'on est contraint par aussi l'accord du client, c'est aussi un travail qu'on s'est donné chez Zenica, c'est de convaincre aussi et d'évangéliser cette pratique auprès de nos clients. Okay. Alors, ça peut prendre diverses formes. Tu as le télétravail pour les clients qui l'acceptent, mais par exemple, dans certaines agences, on va organiser des événements comme le Friday at Home. Ça veut dire que, effectivement, nos consultants, ils ne sont pas en travail chez eux, ils vont venir travailler depuis l'agence. Ça permet de rassembler nos consultants une fois par semaine ensemble, de les garder cet aspect communautaire Zenica. Parfois, de rassurer le client parce que le client se dit, OK, ils sont quand même dans le contexte professionnel pour leur mission. Voilà, donc par ce type de pratique, on essaie progressivement aussi de convaincre à nos clients que le métier de tech peut tout à fait être fait en télétravail. En fait.
Après, c'est les outils que vous pouvez développer pour leur montrer ce qui est fait, les indicateurs, etc. J'imagine, c'est ça qui les
Complètement, oui. Comme c'est une pratique qu'on a depuis longtemps, aujourd'hui, tous les consultants sont équipés pour pouvoir le faire. Toutes nos infrastructures aussi sont équipées pour pouvoir le faire, en fait,
okay.
pour pouvoir travailler à distance.
Voilà. Et c'est quoi alors tes méthodes de recrutement ? Parce que tu dis, tu es une pro. Parce que l'ESN, moi, j'ai toujours entendu dans le recrutement, c'est une très bonne école. Parce que ce n'est pas forcément évident d'attirer des candidats par rapport aux missions que l'entreprise fait. Mais quand tu les recrutes, tu ne sais pas encore forcément sur quelle mission tu vas les mettre. Donc, c'est vrai que c'est quand même assez complexe. Il y a beaucoup de chasse. Beaucoup de postules, je pense. Alors, c'est quoi
Alors, justement, contrairement à ça, moi, pour te raconter un peu l'anecdote, quand j'ai quitté… Alors, moi, j'ai fait 15 ans dans une ESN précédente qui était plutôt une ESN généraliste. Mm-hmm. Et quand ça s'est terminé, pas forcément aussi bien que ce que je pensais après 15 ans. Ouais. Et je suis plutôt partie, en toute honnêteté, j'ai pris mon statut auto-entrepreneur. Et je m'étais dit, voilà, maintenant, j'ai envie de bosser pour moi, j'ai envie d'exercer. Je connais pas mal d'autres recruteurs freelance, comme on avait commencé à discuter, comment on pourrait mutualiser nos expertises. Et je vois que Zenica cherche son responsable recrutement. Et ma curiosité, comme c'est une entreprise que je suis depuis un moment, me dit, je vais aller passer un entretien, alors que moi, j'étais dans une optique de c'est fini l'ESN. L'ESN, c'est… Voilà. Et du coup, j'ai rencontré Karl, je ne te le cache pas, j'ai rencontré Karl et Delphine, qui est la DRH hein, de Zenica. Et ils m'ont vendu un truc. Chez Zenica, on a des candidatures. On recrute uniquement, quasiment uniquement sur candidature. Alors moi, qui faisais 15 ans, je dis bien sûr, oui, c'est beau, voilà. Et ils m'expliquent que justement, ils ont envie d'effectuer une sorte de transformation parce qu'ils sont conscients que ça peut s'arrêter, qu'on a cette chance hein, pour l'instant d'avoir une belle marque et que les techs frappent à notre porte. Mais que si ça s'arrête, aujourd'hui, ils ont besoin d'avoir une équipe qui est aussi formée à la chasse ou à ce qu'on appelle l'approche directe et pas simplement à la réception de candidature. Et moi, c'est ce que j'avais mis en avant parce que c'est vraiment ce côté-là que j'aime de mon métier. Si je devais choisir entre recruteur-sourceur, je serais sourceuse. C'est vraiment aller chercher les gens et les convaincre hein, qui m'animent. Et du coup, ça me plaisait de effectivement récupérer une équipe et de la faire monter en compétence sur cet aspect de chasse. Voilà. Et en fait, si tu veux, je suis sortie de l'entretien en me disant, j'avais dit plus de SN et pourtant, Zenica est tellement différent, j'ai envie de voir si c'est vrai. Et je te confirme qu'après un an, le plan de recrutement de 2019 a été effectué en très grande majorité sur de l'entrant. Donc, ce qu'on appelle l'entrant, c'est vraiment, on diffuse des annonces et on a des super candidatures qui nous permettent de faire nos recrutements. Okay. Et c'est très confortable parce que ça permet tranquillement de faire monter en compétence l'équipe sur la chasse sans qu'on ait le couteau sous la gorge. Donc là, progressivement, les objectifs de l'équipe sont en train de changer. Elles avaient des objectifs uniquement de réalisation d'embauche. Et moi, j'y ajoute maintenant des objectifs aussi de pourcentage obtenu via de l'approche directe. Je demande aussi à l'équipe de se rendre plus visible, de faire plus de personal branding en tant que recruteur, justement pour avoir une approche auprès des candidats qui est beaucoup plus personnalisée. Parce qu'un de mes autres credos, après le sourcing, c'est l'expérience candidat qu'on va procurer. Mmh. Et l'intimité candidat qu'on peut avoir avec nos candidats qui sont pas, ce que j'essaie de dire à mon équipe, c'est pas simplement pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez que vous le faites, c'est même pour vous, vous en tant que recruteur dans votre carrière, avoir un réseau qualifié, avoir des gens que vous pouvez activer, que vous pouvez relancer, etc. Ce sera toujours des facilités que vous aurez vous en tant que recruteur.
Voilà. Ah bah c'est un des piliers du métier, ouais. C'est que finalement, exactement. C'est du réseautage le recrutement.
Exactement, voilà. C'est du réseautage, c'est beaucoup de commerce, en fait, voilà. C'est, faut pas se leurrer. Il y a des aspects marketing qu'on active aussi. Voilà, moi, c'est ça, hein, qui fait que je kiffe mon métier et que je trouve que c'est tout. Si tu as discuté avec Laurent Bois, c'est tout sauf RH, en fait. On est vraiment sur un métier qui s'inspire de plein d'autres métiers, quoi.
Je rentrerai pas dans la polémique. Et du coup, me suis peut-être après. Non, et c'est quoi le ton équipe recrutement? Tu parlais du plan de recrutement. Si tu peux nous donner un peu de chiffres.
Ouais. Alors, hors période Covid, hein, on va contextualiser. Ouais. On est sur des plans de recrutement quand même qui sont assez ambitieux puisque en 2019, on avait 160 recrutements à faire. Et 2020, on avait décidé, s'il n'y avait pas eu cette crise, qu'on serait quand même dans une période plutôt de stabilisation. Donc, un plan un peu moins ambitieux, mais qui restait quand même aux alentours 120 recrutements.
Okay. Voilà. Et donc, revu à la baisse, là, avec
ralenti. Ouais, okay. Tout à fait. Okay. Effectivement.
Ouais. Et donc, les 160 recrutements en 2019, vous étiez combien de recruteurs?
Alors, l'équipe, moi, quand j'ai récupéré l'équipe fin 2018, on avait 3 personnes à Paris, une personne à Lyon qui venait d'être recrutée et une personne à Nantes. Moi, ce que j'ai amené, c'est on a complété l'équipe avec une personne à Lille parce que, et c'est normal, hein, dans le démarrage, le recrutement était plutôt centralisé depuis Paris pour le reste des agences. Moi, je pense que plus on est proche de ceux qui recrutent, mieux on recrute. Et donc, effectivement, Lille commençant à faire une belle croissance, moi, j'ai proposé qu'on ouvre un poste de recruteur en local à Lille, ce qui a été le cas. Et on a fait notre modification en 2019, c'est que j'ai lancé une cellule de sourcing propre, ce qui n'existait pas. On n'avait que des recruteurs chez Zinka. Et aujourd'hui, j'ai dans mes équipes 2 sourceurs. Donc, vraiment un métier à part entière où ils vont aller faire vraiment de l'identification et de l'attraction de talents pour ensuite passer le relais aux recruteurs qui, eux, vont transformer pendant le process.
Ok, des chargés de recherche, quoi.
Ah non, c'est des sourceurs. C'est pas des chargés. Attention, si après, ils m'écoutent, c'est
Bah justement, si tu vas nous expliquer. Non, mais je sais, c'est sur ce métier de sourceur. Donc ils cherchent les candidats, donc ils chassent.
C'est ça. En fait, déjà…
Pas dans le vivier, c'est vraiment de la chasse.
Exactement.
Et après, pourtant, ils passent le relais au chargé de recrutement dès qu'il y a une interaction avec le candidat.
En fait, j'ai 2 profils. Hein. J'ai 2 sourceurs. L'un va du… La particularité, par exemple, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils ne traitent pas les candidatures. Ça veut dire qu'eux ne gèrent absolument pas l'entrant. Ils vont vraiment faire que de la chasse, 100% chasse. Donc, ils vont aller identifier, faire les briefs, identifier, attirer, engager la conversation. Dans mon équipe, une des sourceuses, elle, ensuite, elle passe le relais. Dès qu'elle a ferré, on va dire, le candidat et commencé à discuter avec lui, au moment, ensuite, elle passe le relais. Le premier entretien se fait avec un chargé de recrutement qui prend le relais. Donc, elle ne fait pas ce qu'on appelle de l'évaluation de candidat. Elle fait vraiment de l'attraction. Elle valide certains points. Voilà, elle valide certains points, bah, qu'il est d'accord de bosser en ESN, que le modèle un peu Zinika lui convient, qu'il est dans les stacks techniques qu'on va vouloir recruter. Par contre, la partie évaluation sera vraiment faite par le recruteur. L'autre sourceur, lui, aime quand même pouvoir faire une partie d'évaluation. Donc, lui, il va jusqu'à la qualification téléphonique et ensuite, il passe le relais au hiring manager. Donc, si tu veux, la particularité, c'est plutôt ça, c'est que eux ne traitent que des gens qui soit ne connaissaient pas Zinika, soit connaissaient Zinica mais n'osaient pas forcément frapper à notre porte et de les convaincre de rentrer en process. Mmh. Voilà, c'est vraiment dans l'approche directe que se situe leur expertise.
Et pourquoi il y en a un qui va jusqu'à l'évaluation candidat et l'autre pas ?
Ben parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, ma vision de chose, c'est que le métier sourceur, il n'est pas encore aussi clair. Les frontières ne sont pas toujours aussi claires que ce qu'on met derrière un métier de recruteur. Moi, quand j'ai le challenge que je me donnais, c'est de monter chez Zinica une cellule de sourcing. Mais on est encore en construction. Et du coup, comme le métier n'est pas encore construit, je trouve, de manière complètement claire, même si je sais qu'il y a des chapelles, hein, il y a des gens qui ont des idées très arrêtées sur que fait un sourceur et que fait un recruteur, moi, je trouve que j'ai préféré m'appuyer sur l'appétence qu'avaient mes sourceurs. C'est-à-dire que pour qu'ils fassent bien leur job, je me suis dit, il faut qu'ils aillent jusque là où ils sont à l'aise. Mmh. Et typiquement, moi, celle qui ne veut pas faire d'entretien, elle n'est pas du tout à l'aise dans l'entretien. Et moi, le constat que j'en fais, c'est que si je la force à faire des entretiens, ben, ils ne seront pas aussi bien faits qu'un recruteur qui est passionné par ça, qui aura ce goût du contact avec le candidat en face à face. Et pour l'autre sourceur, lui, il était frustré de s'arrêter juste au moment où il passe la balle pour l'évaluation. Donc, en fait, lui, il est passé sur un modèle de ce qu'on appelle des qualifications téléphoniques poussées, ou alors soit au téléphone, soit en visio, parce qu'effectivement, il n'est pas à l'aise dans l'entretien purement physique. En fait. Voilà. Donc, moi, j'ai préféré plutôt me dire, pour l'instant, je m'adapte à leurs demandes et au qu'on construit, et on verra à terme comment on balise le modèle une fois qu'on aura vu ce qui marche et ce qui ne marche pas.
En fait. Ok. Donc, tes chargés de recrutement, ils en font un petit peu de l'approche directe ou pour l'instant, eux, ils le font aussi un petit peu.
Okay. Ils en font un petit peu. Par contre, ils ont forcément un temps limité parce que comme on a quand même beaucoup de candidatures, bah, ils consacrent une plus grosse partie de leur temps à traiter les candidatures entrantes.
Ok. Et c'est quoi la stat, je sais pas, 2019 à peu près sur entrant et chasse.
Alors, si je prends l'entrant et que dans l'entrant j'intègre les cooptations. Pour donner un ordre d'idée, hein, chez Zinica en 2019, c'était 46% d'embauches sur cooptation, ce qui est quand même un chiffre assez énorme. Hein,
génial.
Qui dépend de l'attractivité hein, que peut avoir aussi Zinica en interne et surtout du bien-être que peuvent avoir.
Surtout de la fierté. Voilà. Ça veut dire que la cooptation, en général, c'est un indicateur que les gens sont prêts à recommander l'entreprise.
Exactement.
De manière intéressée, mais aussi désintéressée, parce que purement intéressée, ça marche pas. Mais c'est-à-dire qu'ils sont prêts à dire aux gens et à vendre eux-mêmes, en fait, la boîte. Disons, mais viens bosser, c'est hyper sympa. Ouais.
Et on a eu un bond en 2019 par rapport à 2018. Ils ont toujours eu un taux de cooptation très élevé, mais là, on a vraiment atteint un pourcentage qui est top. Et sans même changer notre système, hein, parce qu'on pourrait imaginer qu'on a changé notre système d'attribution. Pas du tout.
C'est quoi le système?
On n'a rien. Le système, c'est vraiment un système très classique avec une prime à la validation de période d'essai de la personne que tu recrutes. En fait. Donc, 1200 euros brut. Okay. Donc, voilà. C'est pas du tout… on n'a pas fait de challenge, on n'a pas fait pour
rebooster.
Peut-être
rebooster, de la com ou… Ouais, peut-être vous avez
même
communiqué
pas,
sur le
même
process
pas. Okay. Même pas. En fait, on fait une com dès qu'on a des nouveaux arrivants. Il y a une com qui est faite par le recrutement pour expliquer le système de cooptation, mais on fait pas de mailing, on fait pas de
com. Ah, l'intégration t'explique voilà. Le modèle, quoi.
Tout à fait. Okay. Voilà. Exactement. Donc, si tu prends ces 46% hein, sur de et qu'on considère que c'est de l'entrant, parce qu'effectivement, c'est pas, on va pas dire que c'est pas de la chasse. Tu vois, en 2019, on est quand même, je pense, à peu près à 85% d'embauche sur de l'entrant, en fait.
Ok.
Moi, dans mon ancienne boîte, on était sur un ratio de 60-70% sur de la chasse, quoi.
Oui, oui. Tu vois, mais parce qu'il y a ce travail aussi, Great Place to Work et tout ça. Donc, il y a un travail de marque employeur. Donc, il y a un
complètement.
D'être visible, d'être attractif. Et il y a quoi d'autre, justement, pour faire, pour susciter des candidatures? C'est des job boards, etc. Ou tu fais quoi?
Alors, on utilise, les job boards. Et je dirais qu'on a je reviens quand même à la même chose, et ça se reflète dans le pourcentage de cooptation, on a des super ambassadeurs. C'est que, on a aussi chez Zinica réussi à recruter des tech qui ont une notoriété dans les communautés tech qui font que naturellement ils attirent. Justement, quand je te disais, un consultant d'Zinica qui fait un talk, qui donne une formation, eh ben, il a en face de lui des pairs qui vont noter son nom et qui vont forcément associer à cette personne, parce qu'en général, c'est des gens qui sont bons, bah, l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et nous, on l'a reflété parce que on a fait un travail de stockage des messages de retour qu'on peut avoir de candidats. Et on a énormément de candidats qui nous répondent en disant « J'ai vu un tel de Zenica, donc oui, je connais Zenica. J'ai suivi une formation animée par un tel de Zenica, donc je connais Zenica. » Donc, tu vois, il y a une marque employeur qui s'est aussi diluée simplement par l'expertise de nos consultants et leur présence dans les communautés tech.
Ah bah, de toute façon, c'est, c'est une des clés. C'est sûr que il n'y a rien de plus crédible que de faire parler de toi, de ta boîte, par les collaborateurs, par les gens qui travaillent. Donc ça, c'est sûr que c'est une idée assez géniale.
C'est ça.
Tu les mets en avant, plus tu mets l'entreprise en avant, et puis en plus de manière intéressante. C'est que tu t'apportes.
On a une mine d'or. Et tu vois, tous les recruteurs que j'ai recrutés dans l'équipe là, depuis que je suis arrivée, ils m'ont dit, mais c'est. Ils étaient comme moi. Quand je leur ai tenu le discours, ils m'ont dit, ouais, okay, elle vend son truc pour qu'on vienne chez Zenica. Ouais. Et après quelques mois, ils m'ont tous dit, mais en fait, c'est vrai, quoi. Et typiquement, je te donne un exemple qui est arrivé en fin d'année dernière. Spontanément, on a un consultant qui a écrit un article sur Medium pour relater sa première année chez Zenica et qui vend Zenica. Mais comme bien mieux qu'on ne pourrait le faire. Et très clairement, nous, effectivement, c'est des choses qu'on utilise. C'est-à-dire quand tu approches quelqu'un avec un message en disant ils en parlent mieux que nous et que tu mets l'article, on a eu des taux de retour juste phénoménaux. Parce qu'effectivement, dans ces métiers-là, la parole d'un mentor ou d'un équivalent a beaucoup plus de poids que la parole qui peut être portée par un chargé de recrutement, en fait. Donc, je dirais qu'une des forces de Zenica, c'est de pouvoir fournir à l'équipe recrutement une matière spontanée qui va nous permettre justement d'approcher des candidats et de pouvoir mettre en avant des choses réelles auprès de nos candidats. On n'a pas que des valeurs à afficher. On a justement Market, on a une équipe marketing qui est juste phénoménale, qui fait un travail interne énorme et qui nous permet justement d'avoir de la matière concrète qui illustre nos valeurs. Donc, ça, c'est la vraie richesse, je dirais.
Donc, tu ne mets même pas d'annonce, quoi. Toi, tu as des…
On en met, si. On en met, mais on n'a pas besoin, effectivement, d'arroser.
C'est pas la…
Je te mentirais si je te disais que dans mon plan, j'ai X CV Tech, X Job Board. On a un plan d'outils qui est assez limité.
Tu peux nous en parler un peu.
Sans LinkedIn. Voilà, on a des licences LinkedIn. On publie, cette année, on teste une solution sur Glassdoor. Donc là, on n'est pas sur de l'annonce pure, mais sur vraiment l'image que véhicule. Tu sais, Glassdoor est arrivé sur le marché français avec une offre brillante pour les entreprises. Donc, on est en train de la tester. Et en termes de job board pur de publication d'annonces, on teste Stack Overflow cette année. Là, une pure plateforme tech. Et Indeed en offre non payante avec la PEC. Donc, tu vois, on n'a pas un panel énorme. On n'a pas Monster, on n'a pas les jeudis, on n'a pas tous les outils que tu
peux. Mais Indeed, ça marche pas trop mal, non, sur la tech? L'air de rien.
Ça marche pas mal, ouais. Ça marche pas mal, tout à fait. Ah, on avait, donc en termes d'outils, on n'a pas pléthore d'outils et on a notre site internet. Et ça, comme effectivement, on draine, on a une image qui est assez bien véhiculée, on a énormément de candidatures spontanées qui viennent directement de notre site.
Ok, top. Et du coup, Glassdoor, juste, c'est des annonces aussi. C'est qu'il y a la notation de l'entreprise, annonces. Ils agrègent les offres.
Ils agrègent plutôt les offres. Tu peux sponsoriser certaines de tes offres, en fait. Mais la vraie force de Glassdoor, c'est plutôt d'avoir une page employeur vivante qui donne envie. C'est un petit peu…
C'est un peu comme Indeed. C'est Indeed qui a racheté, non?
Ouais, c'est un peu comme Indeed. Moi, j'avais tendance plutôt à le comparer à Welcome to the Jungle. Tu vois, parce qu'on a d'ailleurs travaillé avec Welcome to the Jungle aussi, où tu as une vraie page où en fait, c'est vraiment la marque employeur qui est mise en avant. Et le but de l'outil, c'est pas de te générer de la candidature, mais plutôt de générer de la visibilité.
Ok. Avec les avis des collaborateurs, des anciens et tout ça, quoi.
Exactement.
Donc, du vrai, quoi.
C'est ça. De l'authentique.
De l'authentique. J'aime bien dire. Ça marche. Et toi, tu dis recrutez-moi. Tu disais, nous, chez YesSir, c'est de dire le rapport s'est inversé. Avant, c'était le recruteur, le DRH, qui te recevait dans son bureau et qui te disait alors pourquoi je devrais vous prendre. Bon, ça, c'est sûr que ça doit encore se faire, mais c'est un peu has-been, un peu anachronique. Et du coup, toi, tu dis à l'inverse. Ça s'est pas vraiment inversé, ça s'est équilibré, quoi. C'est-à-dire que pourquoi je devrais te prendre, pourquoi je devrais venir chez vous, et comment ça se met en avant dans tes entretiens, comment tu prêches ça à tes chargés de recrutement pour changer un petit peu la façon d'appréhender les candidats et le process.
Alors, en fait, il y a déjà les chargés de recrutement et puis après, tous les gens qui interviennent dans le process.
Oui.
Hein, parce que c'est,
ouais, c'est vraiment... Les chargés de recrutement, c'est les plus faciles à convaincre.
Exactement, c'est les plus faciles à convaincre. C'est ce que je te dis au départ, c'est que je pense que une des grosses missions des équipes de recrutement, je trouve, à l'heure actuelle, c'est de sensibiliser tous les intervenants de recrutement autour de ce qu'on appelle l'expérience candidat. Okay. Et l'expérience candidat, c'est pas simplement d'être sympa en entretien. On revient sur la notion d'authentique. Alors, pour l'équipe recrutement pure, moi, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai demandé de changer de posture, progressivement d'aller ce qu'on appelle vers la posture de recruteur coach, en fait. Ton candidat, tu l'as en début de process, souvent, tu l'as en fin de process, au moment du closing, tu reviens. Et en fait, souvent, tu as une déperdition d'informations tout au long du process, où quand même, assez souvent, ton rôle n'est plus que d'organiser l'entretien avec le hiring manager, en fait. Mmh. Alors que moi, ce que j'aurais demandé de faire, c'est vraiment, tu cueilles ton candidat au début et tu vas suivre son cheminement tout au long du process. Donc, tu fais des débriefs systématiques après chaque contact qu'il a pu avoir avec l'entreprise. Donc, par exemple, chez Zenka, ça traduit par tu vas avoir un entretien technique, je t'explique clairement comment ça va se passer, qui est la personne avec qui tu vas échanger, quel est son parcours. Donc là, on est sur le pied d'égalité. C'est je te donne autant d'informations sur la personne qui va discuter avec toi qu'il n'en a au travers de ton CV ou au travers du compte-rendu que j'ai fourni à la personne. Tu vois, il y a eu des démarches que je trouvais super sympas. C'est ça, c'est moi, ce que j'aime bien quand je fais un entretien, c'est que la personne sache qui je suis. Il a le droit de savoir autant de choses sur moi que ce que je vais lui en demander. Et c'est ça que j'appelle le rapport d'équilibre, tu vois. Et surtout, il a le droit de me poser toutes les questions qu'il veut sur mon parcours, sur mes convictions, mes choix, parce que l'évaluation, elle se fait dans les deux sens, en fait. C'est est-ce que nous, on a envie de travailler avec cette personne, mais est-ce que lui aura envie dans le long terme aussi de travailler avec nous? Et ça, c'est super important, en fait.
Voilà. Oui,
donc il y a cette posture de recruteur coach et j'accompagne peut-être aussi simplement dû au contexte dans lequel on est hyper en concurrence sur la tech, c'est que on a rarement un candidat qui vient voir que Zenika, ça serait le bonheur ultime, encore que ce serait peut-être ennuyant parce que moi j'aime bien la compétition aussi, mais c'est de suivre aussi justement il nous rencontre, en parallèle, il a rencontré tel type, telle société, tel type de société. Est-ce que ses motivations changent au gré du process de recrutement? Est-ce que ce que lui a dit un autre recruteur hier d'une autre société l'a fait réfléchir sur certaines choses? Et je trouve que la force du recruteur coach, c'est en étant là à toutes les étapes, c'est là que le closing, on a le plus de chances de le faire. Et ça, on le mesure par les retours qu'on a des candidats. Et je t'en donnerai un pour illustrer. On a un candidat qui, avant même qu'on prenne notre décision, a envoyé à son recruteur un message en lui disant « Écoute, je ne sais pas quelle sera l'issue donnée à ma candidature, mais si jamais je n'étais pas pris, je serais presque plus déçu pour toi que pour moi, en fait. » Tellement il y avait eu cette empathie avec le recruteur qui s'est donné à fond pour que ça marche, en fait.
Voilà. Okay.
Donc, après, sur les hiring managers, je dirais que c'est plutôt Alors, tu peux les guider sur une manière de gérer l'entretien de manière moins descendante. On n'a pas ce problème, je trouve, chez Zenika. On a quand même des hiring managers qui savent faire des entretiens conversationnels. Je dirais que l'étape d'après, si vraiment on devait pousser, ce serait de faire des entretiens un peu plus structurés que ce qui n'est pratiqué aujourd'hui. Sans aller sur de l'entretien peut-être purement structuré, mais peut-être avoir moins le sentiment parfois de recruter au feeling, en fait.
Voilà. Oui.
Ce qui est pas complètement aberrant dans une culture comme Zenika où la place culturelle de la boîte a beaucoup beaucoup d'importance et le fit avec l'entreprise est très très important, au point qu'on est prêt à se dire tu peux être un expert dans ton domaine, si on sent pas le fit culturel avec la boîte, c'est presque le critère premier, tu vois.
Oui, puis c'est vrai que l'entretien structuré, c'est aussi pour les recruteurs, c'est parce que c'est notre métier. Après, le manager, forcément, lui, va se dire, est-ce que j'ai envie d'avoir cette personne un peu au quotidien? Est-ce qu'il me plaît? Ça, c'est hyper difficile à enlever. C'est très facile de dire, non, mais prends du recul, mets moins d'affect. Je vais bosser avec tous les jours.
Bien sûr. Mais d'ailleurs, on le voit même quand nous, on recrute dans notre équipe. Moi, je pense que je suis
c'est toujours différent.
Une bien meilleure recruteuse pour les autres que pour moi-même, tu vois.
Oui.
Oui,
parce que tu ne mets pas de feeling.
C'est ça.
Beaucoup moins. Tu en mets forcément un petit peu parce que tu te dis, est-ce que ça fit avec la culture, est-ce qu'elle correspond à la boîte, mais pas est-ce que je vais la voir tous les jours, quoi.
C'est ça.
Je m'entends.
Ouais.
Ah, c'est ce qui est différent. C'est toujours très intéressant, en tout cas, de recruter pour les autres et puis après de recruter quand même assez souvent pour soi pour voir que c'est forcément plus dur.
C'est pas pareil, exactement. Ouais.
On est là pour donner des leçons.
Et on retombe dans les mêmes travers. C'est-à-dire que tu fais ton brief à toi pour ton équipe et tu finis ta fiche de poste et tu as le mouton à 18 pattes, alors qu'en fait, tu n'as peut-être pas du tout besoin du mouton à 18 pattes. Donc, je dirais que c'est un travers humain, quoi, en fait. Hein. C'est pas.
Bon, et c'est quoi les projets là, pour 2020 au recrutement? Essayer d'autres choses. Là, tu disais Glassdoor, par exemple. Essayer d'autres outils, faire des petits projets.
Ouais. Alors, on a un projet tourné autour de l'audit de l'expérience candidat. Parce qu'en fait, on offre une belle expérience candidat, c'est bien. Et récolter de la data pour pouvoir attester de cela et pouvoir s'améliorer, c'est mieux.
Okay.
Du coup, on est en train de travailler sur un questionnaire qu'on envisage d'administrer à toutes les personnes qui ont des contacts avec Zenica pour en tirer. L'idée, c'est vraiment d'en tirer des axes d'amélioration. En fait.
Ok.
Pouvoir.
Ça serait automatique. Tu es en process. Hop. C'est quoi le moyen pour envoyer le questionnaire?
En fait, on va prendre un outil de. Alors nous, on utilise Typeform, c'est un outil de
questionnaire,
mais peu importe. Mmh. Et effectivement, ce sera administré à l'initiative du recruteur, puisque c'est le recruteur qui va déclencher l'envoi du questionnaire au candidat, quel que soit le stade d'arrêt de son process, en fait.
Okay.
L'idée, c'est pas de le faire uniquement pour les candidats qui rentrent. Et d'avoir que des retours positifs. Et l'idée, c'est vraiment d'évaluer chaque étape, c'est-à-dire ils font un premier rendez-vous RH eux-mêmes avec un candidat. Et bien finalement, là, c'est leur propre performance qui va être évaluée par le candidat. Est-ce que je t'ai donné toutes les informations dont tu avais besoin pour te projeter chez Zenica? Est-ce que je t'ai projeté? Voilà. Donc à chaque étape, ce sera administré et ce sera de manière anonyme, bien entendu, pour que derrière, l'idée c'est que derrière, moi je récolte de la data, pas forcément de savoir qui a fait.
C'est toi qui la récolte, du coup, pas personne par personne, c'est de faire un stat global et pas.
Exactement,
super.
Voilà. Voilà. Et on a, on va retrouver l'évaluation classique. Et puis après, je dirais que c'est aussi un moyen pour nous d'aller confirmer ou infirmer certaines choses qu'on ressent. Parce que finalement, des fois, on a des ressentis qui sont pas du tout les vrais une fois que tu as de la data, en fait. Donc, tu vas souvent te baser sur les derniers événements que tu as eus. Et puis, en fait, une année, c'est 12 mois. Et c'est bien, je trouve, d'avoir une image de ce qui s'est passé pendant 12 mois avec un volume suffisamment important qui nous permettrait, nous, par la suite, justement, d'aller peut-être proposer une nouvelle pratique au hiring manager ou aux gens qui rencontrent les candidats. Ça peut être des choses basiques. Par exemple, si nous, on identifie qu'à plusieurs reprises, on a des candidats qui nous disent « j'ai pas eu l'impression que les questions techniques qu'on m'a posées, elles étaient en rapport avec mon expérience. » Ça, c'est un ressenti. Et l'idée, c'est de voir si ça se retranscrit de manière plus récurrente. Et si c'est le cas, effectivement, de se dire, avec les consultants techniques qui font passer l'entretien, comment on rectifie le tir? Comment on fait en sorte que notre candidat, à l'issue de son entretien technique, se dise c'est bon, je pense avoir été évalué objectivement sur les compétences que j'ai, en fait.
Ok, c'est important.
Donc, voilà. Donc, ça, c'est un des projets.
Ça, c'est un beau projet.
De 2020. Sans essayer d'en tirer un label ou caisse, c'est vraiment
c'est
pour nous,
soir.
En fait, en interne. Toujours le projet en filigrane d'augmenter nos performances sur de la chasse avec des nouvelles pratiques, comment j'entretiens mon visier, comment je me brande en tant que recruteur dans les communautés sur lesquelles je recrute, comment je continue à monter en compétences aussi pour acquérir un vernis technique suffisamment crédible pour quand j'approche un tech, ils se disent pas t'es juste un recruteur qui veut juste récupérer mon CV. Voilà, donc il y a des chantiers plus de développement personnel de l'équipe pour être toujours des meilleurs recruteurs.
Ok. Ouais, puis après, c'est vrai que plus tu appréhendes aussi ton métier de manière un peu plus large en se disant j'ai un peu de chat, j'ai un peu d'évaluation candidat, je dois un peu former les managers à mieux recruter, je dois faire rayonner l'entreprise, me faire rayonner moi-même,
le
branding. Du coup, ça te montre aussi que tu as un poste qui est hyper riche, quoi, que c'est un métier hyper riche,
hyper
vaste, avec plein de compétences différentes à activer. C'est tout un parcours pour s'améliorer, quoi. Il y a plein de choses à.
C'est ça. Et après, si je devais te citer un dernier axe, mais qui est vraiment, je pense, propre au recrutement en ESN, et c'est un chantier qu'on a initialisé avec Carl dès mon arrivée, c'est d'accélérer les synergies entre le service commercial et le service recrutement. Parce qu'en fait, dans le modèle d'ESN, finalement, nos hiring managers à nous, ce sont les forces commerciales hein, qui, eux, sont en contact avec les clients.
Ils vendent une presta et après, c'est à vous de trouver les gens pour la réaliser.
Exactement. Et là, je rebondis sur ce que tu disais au tout début. En ESN, une des choses qui peut être inconfortable, c'est je vends à un candidat finalement quelque chose que je ne maîtrise pas parce que je ne sais pas sur quelle mission il va aller travailler. Je ne sais pas forcément dans quelle équipe il sera. Je ne sais pas. Tu vois, ce n'est pas comme quand tu es un recruteur interne chez un éditeur, tu connais le produit, tu connais les collègues, tu connais, et c'est tout ça que tu peux vendre. Là, il faut savoir vendre par moment un peu d'abstrait. C'est plutôt de savoir dire voilà, les types de missions qu'on peut avoir, les secteurs d'activité dans lesquels on travaille, voilà, qui sera ton manager, parce que chez Zenica, on sait qui sera ton manager. Mais c'est plutôt d'accélérer, quand je parle de synergie, c'est plutôt que le commerce connaisse mieux le métier du recruteur et que le recruteur comprenne mieux aussi les points de douleur du commerce pour en faire des partenaires plutôt que des services qui communiquent simplement entre eux en mode j'ai besoin
de
ça,
bah,
je te fournis ça. Exactement. Voilà. Et ça, on a commencé un chantier. Alors, tu vois, par exemple, le premier point, ça a été de dire on va réunir dans un même bureau le commerce et le recrutement. Ah. Et c'est ce qu'on a fait. Et tu vois, dit comme ça, on a l'impression que ça… Mais ça a beaucoup de sens parce qu'en fait, on se rend compte qu'en open space, tu entends des choses. Un commercial qui revient de prospection, il dit « Ah, j'ai mon client, il m'a demandé ça ». Tu as un recruteur qui peut rebondir. Ah, bah tiens, ça tombe bien, je viens juste d'avoir un candidat qui est. Tu vois ? Donc, le rapprochement géographique, pour moi, il est déjà hyper important. Mmh. Et ça, on le voit bien, tu vois, typiquement, entre nos régions en agence où la charge de recrutement, elle est vraiment impliquée dans la vie de l'agence, et où à Paris, où on a plusieurs commerciaux, c'est un peu plus dilué. Donc, notre vrai travail, ça a été déjà à Paris de construire cette relation gagnant-gagnant entre le commerce et le recrutement. Donc, ça, c'est aussi un des autres chantiers qu'on veut continuer à avoir.
Bah top. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aurait dû aborder, des questions que j'aurais dû te poser?
Non, bah, non, juste.
Pas mal. Ouais.
Je sais que tu as souri sur l'indépendance du recrutement vis-à-vis des RH et effectivement c'est un vrai débat.
Ah, oui.
Et si c'était un des chantiers, ce n'en est pas un actuellement chez Zenica, mais c'est tu vois c'est des questions que se posent les recruteurs. C'est effectivement la revendication d'une reconnaissance dans l'entreprise du service recrutement à part entière. Ça c'est aussi des sujets qui me tiennent à cœur. Et pour conclure, je dirais que j'ai la chance chez Zenica de travailler dans une boîte où tu vois le recrutement a sa place autour de la table parce que finalement, moi, je travaille aux côtés de la DRH, mais pour tous les sujets de recrutement, c'est moi l'interlocutrice en fait. On n'a pas à codir au sens exact du terme, mais on a un comité stratégique. Et dans ce comité stratégique, il y a le recrutement. Ça, c'était aussi un des critères que j'avais moi et que je garderai, je pense, dans mes années futures, c'est de rechercher des entreprises qui ont compris que c'était vraiment une fonction à part entière, un métier à part entière, et qui n'est pas un sous-métier, on va dire, d'une autre dominante, en fait. Tu vois. Moi, je compare les compétences qu'on active quand on fait de la RH, et en plus, j'en ai fait, moi, au tout début de ma carrière, et les compétences qu'on active quand on est recruteur, et elles sont très différentes en fait et ça veut pas dire hein, bien sûr qu'un RH peut pas faire du recrutement et vice versa hein. C'est pas du tout le propos que je tiens, mais je pense que dans quelques années moi mon combat ça serait vraiment que ce soit une fonction à part entière dans les entreprises en fait. Et c'est pas encore beaucoup le cas je trouve
En tout cas t'es à la bonne place alors parce que c'est clairement le combat, mais c'est le message que je porte avec ce podcast, c'est que moi, j'aime beaucoup, j'adore ce métier, comme tu le disais toi aussi. Je l'ai fait pendant plus de 10 ans. Et justement, à chaque fois, les invités, c'est ça le message, c'est de dire à quel point c'est un métier qui est riche, qui est beaucoup plus complexe, vaste que ce que les gens pensent. Et c'est ça que j'essaie de porter avec…
Exactement. Et tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu disais chargé de recherche versus sourceur. On a, nous, quand on a mis des sourceurs, hein, on a amené des sourceurs chez Zenica, moi, je me suis rendu compte qu'en interne, c'était méconnu, ce métier. Effectivement, tout le monde me disait, bah oui, mais t'as pris un chargé de recherche, en fait. Mais peut-être qu'il y avait des charges de recherche qui avaient beaucoup plus que simplement d'aller chercher du CV et de transmettre un CV. On a eu la chance de faire une présentation au comité de pilotage d'entreprise de c'est quoi, que fait le sourceur chez Zeneca, où s'arrête son travail, avec des dimensions de gros hacking, des dimensions de cartographie de marché, des dimensions de data. Et les gens n'étaient pas… tu vois, la réussite, c'était qu'à la fin, on me disait « Ah oui, mais en fait, non, ce n'est pas ça que j'avais en tête quand je parlais de charge de recherche. » Donc, moi, j'ai envie de dire charge de recherche, sourceur, peu importe. Moi, ce qui compte, c'est ce qu'on met derrière. Et effectivement, aujourd'hui, je pense que les sourceurs sont un peu embêtés parce que dans le poste de chargé de recherche, c'est plus restreint, pense, que ce que fait un sourceur.
Alors que, je suis un peu vieux, mais chargé de recherche, tu vois, dans des cabinets de chasse… un peu à l'ancienne, les cabinets, la chasse, c'est un peu différent dans les cabinets, mais avant, c'était un métier hyper complexe où tu devais faire cartographier des organigrammes, les gens, qui connaît qui.
Voilà, établir une stratégie pour contacter,
passer le barrage des hôtesses d'accueil et compagnie, etc. Et finalement, après, des gros cabinets de chasse comme ça, ils allaient te vendre un candidat à 40 000, 50 000 euros. Finalement, la vraie plus-value, c'était d'arriver à identifier la bonne personne, de l'approcher et après de l'évaluer. Mais finalement, le gros quand même avait été fait. Et tout ce travail-là, c'était les chargés de recherche des grands cabinets de chasse. Qui
Mais après, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça a été… l'image s'est transformée à partir du moment où il y a eu l'arrivée des outils numériques type CVTech.
Oui.
Ont fait que des entreprises ont pris et intitulé ces postes de charge de recherche de je cherche du CV en balançant des mots-clés, j'imprime mes CV et je les transmets. Et c'est ça, je pense, qui a terni un peu l'image. Mais je suis entièrement d'accord que parce que je sais pas si on a le même âge ou pas, mais je suis vieille aussi. C'est vrai que dans les cabinets, on est après, je suis même plus vieille que toi, mais dans les cabinets, c'était un métier noble. Enfin, je veux dire, le chargé de recherche, c'était la base de tout, quoi.
Après, dans le recrutement, de toute façon, si tu n'as pas la bonne matière pour travailler, tu as beau être le meilleur en entretien, ça ne sert à rien.
Exactement, c'est ça.
Sinon on va repartir.
Tu peux interviewer Guillaume Alexandre. Je ne sais pas si tu… J'imagine que tu connais Guillaume Alexandre.
Oui. Je suis un lien avec lui. Ça marche. Eh bien, top. Merci beaucoup, Coralie, pour ton temps.
Merci à toi. Très agréable, cet échange.
Ouais, et puis à bientôt.
À bientôt.
Merci d'avoir écouté cet épisode des Lois de l'attraction. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être sûr de ne pas rater le prochain épisode qui promet d'être passionnant. Si vous êtes sur Apple Podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles, ce serait vivement apprécié. Si vous souhaitez participer à ce podcast, me suggérer un invité ou me faire vos remarques, écrivez-moi sur fx@yessir.fr, fx@yessir.fr. À très bientôt dans les lois de l'attraction.